Morgane sur CFM dans l'émission Les hommes sont des animaux comme les autres, l'émission mensuelle consacrée aux animaux et aux thérapeutiques naturelles. Ce mois-ci, Valérie Proust, praticienne en fleur de Bac, va nous parler de la gémothérapie, qui est l'utilisation thérapeutique des bourgeons végétaux frais. Après, on ira à la rencontre d'un magnifique rapace de l'hémisphère nord, le harfang des neiges. Nous rejoindre sur CFM dans l'émission Les hommes sont des animaux comme les autres. On retrouve Valérie Proust qui va nous parler cette année de la gémothérapie. Bonjour Valérie.
Bonjour Morgane.
De quoi as-tu choisi de nous parler ce mois-ci ?
Donc, alors de la gémothérapie, et pour démarrer, de présenter justement, d'expliquer de quoi on parle. Alors,
d'accord.
La gémothérapie, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une thérapie utilisant les bourgeons végétaux. Et d'autres tissus embryonnaires vivants, donc tout ce qui vient de l'intérieur, même du bourgeon, c'est pas encore la plante, hein.
Oui.
C'est les jeunes pousses et les radicelles qu'on va retrouver sous forme buvable et dont le but est de drainer vraiment profondément l'organisme et de régulariser ensuite spécifiquement le fonctionnement des organes perturbés, hein, ouais, par le biais du système nerveux et du système, alors ça c'est un gros mot, réticulo-endothélial.
C'est-à-dire ?
Alors c'est-à-dire tout le système qui correspond à la succession des nerfs, tout ce qui va communiquer avec tous les organes. Et donc les tissus embryonnaires sont riches en facteurs de croissance, donc c'est ce qui va permettre, ce qu'on va dire, de régénérer en fait nos tissus, parce que c'est non seulement ça a une action, on va dire, dépurifiante, etc., drainante, Mais en même temps, ça aussi, ce qu'on verra tout plus tard quand je vais l'expliquer, mais une fonction de régénération.
D'accord.
Voilà. Et donc, on a actuellement 33 bourgeons qui sont utilisés régulièrement. Et au fur et à mesure des études, il y a des nouvelles plantes qui sont étudiées et qui viennent accroître le nombre, augmenter la liste.
Et oui, c'est presque pareil que les fleurs de Bac, non?
Non, c'est pas pareil, parce qu'en fait...
En fait, je veux dire, le nombre, on en a 33 les bourgeons.
38.
Ah oui, c'est 38 les fleurs de Bac, c'est ça, ouais.
Et d'ailleurs, il y a l'auteur d'un livre dont je me suis inspirée, qui parle notamment de la médecine du docteur Bac.
D'accord.
Ouais, ouais, donc c'est complémentaire aussi. Et il y a différentes fleurs de Bac qui sont utilisées aussi par
en gémothérapie.
En gémothérapie, ouais, tout à fait.
D'accord.
Des bourgeons d'arbres, etc.
Ouais.
Voilà. Donc voilà la définition de la gémothérapie. Alors ensuite. Ce qu'on peut dire, c'est que donc c'est une médecine, une science du 21e siècle. C'est vraiment tout récent. C'est suite au travail et aux recherches en phytothérapie.
Oui.
Donc des chercheurs se sont penchés progressivement sur l'aspect sur justement les bourgeons. Et c'est notamment le docteur Paul Henry. Alors, je connais pas sa nationalité, mais Paul, c'est P-O-L, donc je pense pas qu'il soit français. Je vous donnerai des informations une autre fois. qui, à partir des années 50, s'est intéressé à l'utilisation des extraits embryonnaires végétaux. Donc, les bourgeons et les jeunes pousses. Mais c'était suite aux travaux d'un docteur Niehans qui lui avait travaillé, qui faisait ça, mais il utilisait le règne animal, donc d'accord. Il travaillait sur des embryons animaux.
Ah oui.
Voilà, c'est une technique qui est encore une médecine qui est encore utilisée notamment en Suisse et aux États-Unis, mais qui est très très réglementée parce qu'il faut avoir des animaux vraiment suivre des cheptels, connaître vraiment l'origine de l'animal. Et en même temps, bon, en France, ça c'est interdit, quoi. Oui. Donc, en plus, il y a pas mal d'effets secondaires, etc., qui peuvent être assez désagréables. Enfin, on peut supposer, parce que quand même, de l'embryon animal, c'est peut-être pas évident. Et du coup, en fait, la gémothérapie n'a pas du tout les effets secondaires qui pouvaient se présenter dans la technique portant sur les animaux. Et puis, les plantes, on a vraiment plein de choses à découvrir et à redécouvrir avec elle. Voilà. Donc, alors le nom gémothérapie aussi, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est aussi la science des pierres semi-précieuses,
c'est vrai,
tous les cristaux, enfin, etc. Et donc, ça vient du fait que les bourgeons peuvent être comparés par leur forme extérieure à des pierres précieuses, avec les facettes, etc.
Ah oui.
Et le mot pierre précieuse, ça vient du mot gemma en latin. Et notamment, c'est le docteur Max Teto, qui est un grand spécialiste de la gémothérapie, qui a désigné ce travail comme étant la thérapie de la gémothérapie. D'accord. Et il a lancé de cette façon le mouvement d'études et de pratiques qui se développe progressivement autour justement des recherches biologiques qui sont également menées par des docteurs Julian et Flamand. On va noter d'illustres scientifiques qui travaillent pour la nature, enfin pour la condition humaine.
Via la nature.
Via la nature, ouais. Donc voilà. Et le principe, c'est qu'on peut considérer que la forme embryonnaire, qu'elle soit animale ou végétale, contient des éléments beaucoup plus actifs que l'espèce finie, c'est-à-dire que l'embryon, il a tous les potentiels de la branche ou du fruit, enfin de l'arbre, etc. Quoi.
Oui.
Et là, les éléments, ils sont beaucoup plus actifs que la forme complète de l'individu, de la plante, de l'arbuste, de l'arbre ou de l'animal.
Voilà. Oui.
Donc
c'est plus intéressant de les prendre en bourgeon qu'en plante finie.
Exactement. Ouais. Et en fait, si tu veux, le principe, le postulat et l'action, c'est que tu as, par exemple, un fruit qui va avoir une particularité sur le même plante, par exemple l'écorce ou la racine, etc., vont avoir différentes propriétés.
Propriété, les feuilles,
tandis
ça,
que là, tu as tout dans le bourgeon. Et en plus, avec une intensité beaucoup plus puissante parce que c'est l'état embryonnaire.
Et ouais, donc à la limite, ça serait un peu plus holistique, encore plus holistique que la phytothérapie, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais, ça englobe plus. Et après, on verra quand on regardera certaines les plantes en elles-mêmes, enfin les macérats en eux-mêmes. Il y a à chaque fois, il y a différents aspects qui interviennent.
Ouais.
Voilà. Et c'est vraiment passionnant. Voilà. Donc pour préciser encore certains l'origine un petit peu de ce développement de cette science, hein, on peut appeler ça comme ça, cette médecine. Voilà, la base dont on parlait tout à l'heure sur le travail des animaux, ça a débuté en 1930. Donc ça consistait en des injections, alors intramusculaires.
Invasif.
Voilà. Ouais. De broyats cellulaires provenant de fœtus d'animaux.
Ah oui, c'est un peu spécial, voilà.
Et c'était vraiment reconnu, quoi. Hein. Ça mettait en évidence ces qualités de stimulation du potentiel vital. On va vraiment dans le potentiel énergétique de l'organisme. Mais voilà. Donc de toute façon, c'est pas autorisé en France. Et les injections de cellules et d'organes embryonnaires sont d'abord, après il faut un drainage important de l'organisme. Et puis c'est ce que ça a révélé aussi, c'est que ça aboutissait à une forme de rajeunissement des tissus.
Ah oui.
Ça reboostait vraiment parce que on remettait des cellules d'embryon, quoi. Voilà. Donc ici, la gémothérapie, bah, finalement, elle offre les mêmes possibilités, mais sans présenter les effets secondaires. Il n'y a pas d'injection, donc il n'y a pas de rejet, parce que des fois, c'est aussi c'était les risques de choc, voire d'infection, parce que c'est juste, on boit, c'est des gouttes
Des gouttes, oui.
Voilà. Et comme c'est aussi sur des bases d'alcool, on a l'habitude pour la plupart. Donc le rejet est pas très. On sait où on en est à ce niveau-là. L'organisme connaît en tout cas ce qui se passe au niveau de l'alcool. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben voilà, il s'agit pas de renier les autres médecines. Il y a tout ce qui correspond avec, on travaille avec les tisanes, l'aromathérapie, élixirs du docteur Bach. Mais le but, c'est quand même en phytothérapie d'en découvrir d'autres. Vraiment avec la gémothérapie, on est sur des choses vraiment très très nouvelles. Hein. C'est vraiment la dernière médecine connue et la dernière des plantes, quoi. En fait, ça vient et c'est marrant parce que c'est la dernière, mais en même temps, ça a l'air d'être une des plus puissantes, quoi.
Parce qu'on
rentre dans l'origine du végétal, dans tout son potentiel et c'est fabuleux. Voilà. Et donc, par exemple, pour donner un petit exemple, on peut parler du figuier, qui, lui, n'était connu et utilisé que pour ses propriétés laxatives. Et puis là, on découvre que ces bourgeons ont une action sur l'axe, cortico-hypothalamique. Ça veut dire que ça vient sur le fonctionnement du cerveau. Donc, ça a des fonctions anxiolytiques. Et utiliser juste, je sais pas dans quelle la décoction de feuilles ou d'écorce pour des propriétés laxatives, on découvre que c'est un anxiolytique. Ça fait faire un bond et c'est voilà. Et donc voilà, c'est ça qui est passionnant, je trouve. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ce que je peux vous raconter pour l'introduction à la gémothérapie et en attente
du mois prochain.
Voilà.
Super. Mais merci beaucoup Valérie.
Merci Morgane.
Et à la prochaine fois.
Just before the sunset, said, and you said, welcome with your eyes. And we said, and we said, nothing at all. Oh, we have been to many churches, but we never believed. We have been to many churches, but we never believed.
Voici, j'ai choisi de vous parler d'un rapace appelé Ookpik par les Inuits et emblématique du Québec, le harfang des neiges. D'autres noms lui ont été attribués au fil du temps, tels que chouette de l'Arctique, fantôme de la toundra ou encore terreur blanche du Nord. De son nom scientifique, Bubos candiacus, il fait partie de la famille des Strigidae. On le retrouve dans toutes les terres qui entourent le cercle arctique polaire, du Kamtchatka, extrême-est de la Russie, à la Norvège pour l'Eurasie, et de l'Alaska au Labrador en passant par la terre de Baffin pour l'Amérique du Nord, ainsi qu'à l'extrême nord du Groenland. La majeure partie de la population mondiale de harfang des neiges est située sur les territoires de la Russie et du Canada. À partir de début novembre généralement, il migre vers des lieux situés plus au sud, mais il peut également migrer entre la Russie et le Canada. En février ou en mars, il reprend le chemin du nord vers son aire de nidification en Arctique. Certains harfangs hivernent sur leur lieu de nidification si la nourriture reste abondante. Il y a 14 000 à 15 000 ans environ, la chouette harfang vivait en France. Les fouilles archéologiques de plusieurs gisements, par exemple la grotte de Boisrago à Jouex dans la Vienne, située dans la plaine d'Aquitaine et datant de la fin des temps glaciaires, ont livré des ossements de ce rapace. L'analyse de ces vestiges par les archéozoologues indique que les chasseurs-cueilleurs magdaléniens ont capturé cet oiseau et ont exploité la viande, les ossements et vraisemblablement ses plumes. Cet oiseau des neiges fréquente la toundra arctique avec un habitat composé de mousses, graminacées, rochers et de végétation de type lichen et boulonnin. Dans le Grand Nord, il niche souvent à proximité des côtes. Il est un des plus lourds strigidés de l'Amérique du Nord avec ses 50 à 70 cm de haut, son envergure de près d'1,50 m aile déployée et son poids de 2,3 kg pour la femelle et 1,8 kg pour le mâle en moyenne. Il est dépourvu d'aigrettes et possède un plumage très caractéristique, blanc plus ou moins marqué de rayures et de points bruns, qui le rend facile à distinguer des autres oiseaux. Les femelles sont plus foncées que les mâles et les juvéniles le sont encore davantage. Chez les deux sexes, le plumage blanchit avec l'âge, le mâle pouvant devenir d'un blanc immaculé. La couleur claire du harfang des neiges facilite son camouflage sur la neige, mais cet avantage disparaît en été. Il possède une bonne couche de plumes et de duvet, ce qui le rend capable de maintenir la température de son corps entre 38 et 40 degrés, même lorsque la température de l'air atteint les moins 50 degrés. Il possède de puissantes griffes qui mesurent de 25 à 35 mm de longueur. Son ouïe est remarquable, les sons sont captés par le disque facial qui les réfléchit et les amplifie. Autre particularité, les yeux du harfang ne roulent pas dans leur orbite, ce qui oblige l'oiseau à tourner la tête pour regarder sur le côté ou poursuivre un objet en mouvement. Sa tête peut ainsi pivoter en décrivant un tour presque complet de 270 degrés. Son excellente vision diurne et nocturne lui permet de déceler des mouvements à 1 km de distance. Ses yeux jaunes renferment en effet plus de cellules visuelles que nos yeux. Contrairement à la majorité des strigidés qui sont nocturnes, le harfang des neiges chasse en plein jour ainsi qu'à l'aube et au crépuscule. Une telle adaptation n'est pas surprenante, sachant que dans le cercle arctique, le soleil ne se couche jamais pendant presque toute la période de reproduction en été. Dans la chaîne alimentaire de la toundra, le harfang occupe avec le renard la place la plus élevée, celle du prédateur. Cependant, dans ce système vivant très simplifié, ces carnivores spécialisés sont aussi très vulnérables. Très efficaces lorsque les lemmings sont abondants, ils sont voués à la famine ou à l'exil quand se raréfie ce gibier qui constitue l'essentiel de leur menu. Dans l'Arctique, ils mangent également des lièvres arctiques, des lagopèdes, des renards ou des oiseaux de mer lorsqu'ils sont disponibles. Il est assez rapide pour attraper des canards au vol, mais préfère les petits mammifères. Comme les autres oiseaux de proie, le harfang des neiges avale ses petites proies tout entières. Des sucs gastriques très puissants dissolvent la chair tandis que les os, les dents, la fourrure et les plumes indigestes sont comprimés en boulettes ovales que l'oiseau régurgite de 18 à 24 heures plus tard. Dans le sud du Canada, ces boulettes renferment très souvent la fourrure et les os de campagnols, des gens et d'autres souris. Chaque oiseau doit capturer de 7 à 12 souris par jour pour combler ses besoins. La reproduction du harfang des neiges est intimement liée aux fluctuations des populations de lemmings dans les régions où ils dépendent de cette source de nourriture. Quand les lemmings abondent, le harfang pond jusqu'à 11 ou 12 œufs par couvée. Les années où les ressources alimentaires sont insuffisantes, la couvée se limite à 4 à 7 œufs et de nombreux couples choisissent même de ne pas se reproduire du tout. Les harfangs s'apparient souvent pour la vie. La superficie du territoire mesure généralement 3 km², mais elle peut varier en fonction de l'abondance des proies et de la densité des populations. Le harfang n'a pas le statut de menacé, bien qu'on note une diminution importante de sa population depuis 1970 environ, et que les œufs soient recherchés par des collectionneurs, mais son habitat, l'Arctique, est menacé par le réchauffement climatique. Et notre rapace est également menacé par divers problèmes liés à l'agriculture et au développement. En effet, quoique la famine soit responsable de la mort de certains harfangs immatures et inexpérimentés qui s'éloignent de leur aire normale d'hivernage, c'est sans doute l'être humain qui laisse planer la plus grande menace sur eux, qui passe l'hiver dans les régions habitées. La collision en vol avec des lignes électriques, des clôtures de fils barbelés, des automobiles ou diverses structures est une cause importante de mortalité chez les harfangs des neiges qui hivernent dans le sud du Canada. Autrefois, les chasseurs tuaient les harfangs durant leur vol en provenance de l'Arctique. Même si on abat encore quelques-uns illégalement en hiver, la majorité des gens se contentent maintenant d'observer ou de photographier ces oiseaux imposants et mystérieux. Le harfang des neiges constitue un maillon important dans la chaîne alimentaire de l'écosystème de la toundra et illustre admirablement bien une adaptation morphologique et comportementale complexe aux conditions très rigoureuses de cet environnement. Durant ses séjours dans le sud, le harfang des neiges peut jouer un rôle utile dans la limitation naturelle des populations de rongeurs des régions agricoles.
Don't get me back to good, good bullshit. wasn't the right.
C'était Morgane sur CFM dans Les Hommes sont des animaux comme les autres. Je vous quitte avec une citation de Victor Hugo. Vous voyez l'ombre et moi je contemple les astres. Chacun a sa manière de regarder la nuit.